Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Nous avons au studio Clémence Lataste, bonjour.
Bonjour.
Et Edwige, pour la corderie, toutes deux, vous êtes ici pour nous parler de ce partenariat opéré entre ces deux structures, la vôtre, Clémence, et celle de la corderie, avec une demande précise d'ailleurs et aussi une direction.
Oui. Tout à fait, bonjour. Alors, moi c'est Edwige. Et donc en fait, moi, mon envie ici, c'est de mettre en avant un petit peu donc, la corderie, mais aussi avec tous ses partenaires, et de pouvoir en fait être un peu au devant de la scène, parce que je me suis rendu compte que finalement, les associations, on ne les connaît pas vraiment. Et le fait de parler de son association, de son fonctionnement, de son partenariat avec les uns et les autres, eh bien, en fait, créer du lien déjà dans un premier temps et puis explique aussi aux auditeurs, aux auditrices et puis à tous ceux qui peuvent aussi nous aider financièrement parce qu'on est des associations et qu'on est subventionnés. Et donc, du coup, voilà, ça permet aussi à ces prochains subventionneurs, de mécènes, de pouvoir de dire que oui, effectivement, j'ai envie de participer, moi aussi, à ce lien.
Edwige, quel est votre statut au sein de la corderie? Vous avez une fonction précise?
Alors, j'ai une fonction précise, mais on est toujours en gouvernance partagée. Donc, c'est un rôle que j'ai bien voulu prendre, mais qui ne va pas être là tout le temps. Là, pour l'instant, je suis la référente du groupe d'Audi. Donc, c'est-à-dire que je vais un petit peu chapeauter tous les groupes d'Audi, les ateliers, tout ce qui est communication. Enfin, je vais un peu être un peu plus le bras droit de notre salarié pour un peu la soulager. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir participer, même si j'étais pas référente, en fait, au cercle décisionnaire. Donc, c'est nos réunions comme un CA, en fait, mais nous, c'est le cercle décisionnaire. Et puis, voilà, de pouvoir un petit peu mettre des idées en place, de les faire voter en consentement partagé. Pour moi, personnellement, j'ai envie de mettre en lien avec les partenariats pour pas qu'on fasse chacun de son côté, alors qu'ensemble, en résilience, on peut faire mieux.
Il y a eu ce mardi un deuxième module dans le cadre des formations des bénévoles auquel Edwige, vous avez participé. Et c'était à l'atelier proposé par donc Clémence. Et il s'agissait donc de transformer en pratique, de transformer sa pratique, s'écouter soi-même et les autres pour mieux coopérer. Donc pour vous, il y avait une nécessité, Edwige, de suivre cette formation pour le cadre de la corderie.
Oui, alors je l'ai suivi pour moi personnellement, parce que je trouve que c'est toujours nourrissant. Et effectivement, je trouve que la qualité de la prestation de Clémence Lataste, elle est là, quoi. Elle est bien présente. Et ça, c'est dans un premier temps, ça nourrit. Dans un deuxième temps aussi, en fait, on peut le mettre en application quasiment tout de suite, hein, parce qu'on a toujours des petits conflits les uns avec les autres, de pouvoir aussi aider en tant qu'inter entre les bénévoles, en fait. Ouais, c'est toujours enrichissant. Et...
D'ailleurs, avant de continuer, on peut peut-être préciser aussi aux auditeurs ce qu'est la corderie du Diwa, ce qu'on y trouve et ce qui est proposé au public.
Effectivement, on peut faire un petit rappel. Donc, la corderie, c'est une association qui est basée sur des temps d'échange. Et en fait, une heure d'échange est égale à une heure donnée, quoi. Donc, c'est en heure seulement. Il y a donc des offres et des demandes. Il y a des ateliers aussi qui sont proposés, c'est tout. En fait, c'est un système alternatif au système d'aujourd'hui, quoi, et qu'on peut trouver dans n'importe quelle région de France, jusqu'au Québec. D'ailleurs, c'est eux qui sont venus nous l'informer en France. Et l'idée, c'est voilà, d'être un petit peu, j'ai envie de dire, autonome et être à fond dans sa créativité. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Et du coup, si j'ai envie de créer un atelier... Eh ben, je le crée, même si j'ai des petites compétences ou j'ai pu savoir faire quelques fois, eh bien, je peux quand même mettre en place cet atelier en individuel ou en groupe au profit des autres accordeurs et oui, bénévoles auprès des autres accordeurs.
Clémence, ce partenariat par rapport à votre approche, consistait en quoi et à quelles questions vous répondez ?
Alors, ce partenariat, on l'a commencé l'année dernière. Et ça a démarré avec la demande d'une des membres de la corderie qui avait, enfin, et en partenariat aussi avec le SCDD, qui avait envie de proposer aux bénévoles un espace pour pouvoir apprendre à poser un peu ses limites en tant que bénévole, à savoir quelles étaient ses limites, parce qu'en général, dans le bénévolat, on peut aussi, comme partout, faire trop, et en fait, après, on n'a plus trop envie de s'investir. Donc, c'est parti un peu de cette question au départ, de se dire comment on prend soin un peu de ses limites, et en même temps, comment on s'engage. Donc, il y avait cet équilibre entre... À la fois, je suis bénévole, donc je suis pas, c'est pas un travail, donc je fais quand même les choses par plaisir. Et d'un autre côté, si je suis dans une association et que je prends des responsabilités, je m'engage quand même. Donc c'était comment on arrive à trouver cet équilibre-là. Donc on est parti là-dessus l'année dernière, et puis on a fait une demi-journée d'atelier, oui, parce que c'est pas encore vraiment une formation à ce format-là, mais en tout cas pour que moi je puisse donner un peu mon point de vue avec la communication non violente et tous les repères que ça peut donner sur justement c'est les besoins individuels, les besoins collectifs, comment on trouve l'équilibre. Et puis cette année, il y a eu de nouveau cette formation, cet ensemble de formations et d'ateliers qui étaient proposés. Et on m'a resollicité pour proposer quelque chose. Et là, j'ai demandé en fait que ce soit plutôt une journée, parce qu'une demi-journée, c'était un peu frustrant. Et voilà, donc on a fait cette journée mardi dernier et on a pu aller un peu plus loin, quoi. Voilà.
Edwige, cette journée vous a certainement enrichi. Est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen de transmettre ce que vous avez acquis aux autres membres de l'association, par exemple ?
Alors, je vais le mettre, pas directement, en fait, peut-être. Mais comme j'aime bien aussi animer nos cercles décisionnaires, et puis avec notre salarié Ophélie, il se pourrait que, oui, effectivement, quand on a aussi une charte relationnelle de prendre soin des uns des autres, et donc du coup il y a un facilitateur et puis il y a un guetteur d'ambiance et tout ça. Mais du coup, moi en fait, peut-être que quand je proposerai des choses, que quand j'ai justement ce mur de non en fait devant moi, peut-être de le prendre plus en douceur, de l'accueillir plus au ralenti et de m'exprimer peut-être autrement, parce que c'est vrai que c'est pas évident tout le temps de s'exprimer. Et le fait, dans ce qu'elle nous a apporté mardi dernier, c'était de ralentir. Et c'est vrai que le fait de ralentir nous permet vraiment, en fait, s'exprimer au plus juste, avec l'amour, et puis de regarder l'autre personne en face et de dire qu'effectivement, elle peut ne pas avoir le même point de vue que moi. Mais on peut se retrouver dans d'autres circonstances, sur d'autres besoins.
Clémence Lataste, pour vous, le sens des mots est très important, justement, pour lors de ces réunions, que les protagonistes puissent comprendre le même sens de ce qui est exprimé.
Alors oui, alors j'ai une réponse un peu mitigée là-dessus, parce que pour moi, ce que je transmets, c'est pas dans un premier temps un langage, la communication non violente, même si son nom peut être un peu équivoque, mais en fait, c'est d'abord une posture, donc dans laquelle on va être en lien avec l'autre, c'est-à-dire on va regarder les réactions de l'autre avec un certain regard plutôt bienveillant que avec l'idée que la personne, elle fait des choses pour nous embêter, pour nous contrer, pour avoir raison. Voilà, c'est d'essayer d'avoir un autre regard. Et quand on a cet autre regard, bah, du coup, forcément, on va s'exprimer différemment. Donc voilà, pour moi, juste dire que les mots, c'est la conséquence d'une posture et d'une manière d'être en relation avec soi, parce que du coup, on commence à l'appliquer à soi-même. C'est pas juste du développement perso pur, hein. C'est pas du tout ça la CNV. C'est d'abord se dire que si on n'applique pas les choses à soi-même, c'est un peu compliqué de les appliquer dans la relation à l'autre et aux autres et au groupe. Et puis, bah, une fois qu'on a cette posture-là intérieure, on va dire de s'écouter avec bienveillance et d'essayer de se pardonner quand on fait des erreurs, etc., et de pas être hyper exigeant avec soi-même tout le temps. Bah, du coup, on peut le faire aussi avec les autres, et donc dans notre manière de parler, bah, ça va être un peu plus compréhensif, avec un peu moins d'interprétation, ou de jugement vers l'autre, ou de critique, ou de reproche, mais en essayant toujours de se questionner qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, avec cette curiosité de rencontrer la réalité de l'autre, quoi. Donc, c'est pour ça que, voilà, ma réponse, elle est un peu équivoque, enfin, ambivalente sur les mots. Mais après, bien sûr, les mots, ils sont importants quand même parce qu'ils permettent de représenter quelque chose, d'essayer de traduire quelque chose qu'on ressent, ou une vision, ou une aspiration qu'on a. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir développer son vocabulaire, et la CNV, elle aide à ça aussi, à un peu se donner plus de nuances dans comment on va parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on aimerait, de savoir, par exemple, demander quelque chose de manière claire, parce qu'on peut avoir tendance à demander des choses un peu vagues, et donc c'est pas clair pour l'autre de savoir est-ce qu'il peut dire oui ou non. Donc notamment, bah, quand on est dans une asso et qu'on a des tâches à se partager, ou voilà, d'essayer que ce qu'on dit soit clair et assumé, en fait. Et ça passe aussi par les mots, c'est sûr.
Clémence, justement, vous, la communication non violente, c'est votre fer de lance, en quelque sorte. Je vous avais reçu sur quelques émissions auparavant. Qu'en est-il aujourd'hui de cet aspect de la communication non violente? Est-ce qu'elle s'est vraiment bien installée sur le DIWA, ou il y a encore du travail?
Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour... parce que je ne connais pas tout ce qui se passe sur l'IWA.
Mais... C'est en fonction des demandes, je pense que vous avez été sollicitée. Est-ce qu'il y a toujours ce regain ou alors est-ce que les choses se sont plutôt calmées?
Je dirais que le territoire étant petit, je ne sais pas trop analyser de qu'est-ce qui est du fait qu'il y a déjà eu pas mal de personnes qui se sont initiées ou formées à la communication non violente depuis 9 ans que je suis là. Et il n'y a pas que moi, évidemment, qui propose ça. Enfin, dans le DIWA, oui, mais officiellement, on va dire, mais après, il y a d'autres personnes aussi qui proposent des choses, des initiations, des choses comme ça, et de la pratique, des groupes de pratique. Ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours de l'intérêt et de la demande, mais c'est sûr que moi, je vois que dans les formations et les stages que je propose, les gens, ils viennent un peu d'ailleurs aussi. Enfin, voilà, de Valence, de l'Ardèche, enfin voilà, des alentours, quoi, et pas que du DIWA. Même si, clairement, quand moi je suis arrivée il y a 9 ans, j'ai vraiment senti beaucoup d'intérêt, en fait, pour ce que je proposais là. Là où j'habitais à Toulouse avant, c'était un peu inconnu, quoi. Donc c'est sûr que j'ai vu que c'est vraiment un territoire qui est hyper en demande sur ce plan-là, mais après, je sais pas trop comment ça évolue vraiment.
Et puis, il n'y a pas que le secteur associatif que vous traitez. Il y a l'entreprise et parfois peut-être aussi la famille.
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des personnes qui ont envie de se former et d'avoir plus de compétences relationnelles pour fonctionner en famille, en couple, avec donc ses enfants aussi. Et puis, dans les collectifs aussi, il y a quand même pas mal de vie collective dans le coin. Et j'interviens aussi pour des équipes. Et donc là, c'est des personnes qui ont envie de se former ensemble en équipe pour avoir les mêmes repères et pouvoir fonctionner ensemble sur des bases communes, en fait, de communication, de relations, pour essayer de... Soit ils me demandent une formation parce qu'ils sont allés un peu trop loin dans les tensions et que ça crée des conflits et qu'ils voient bien que du coup, ça a un impact sur leur travail, leurs objectifs à atteindre ensemble. Soit, il y en a de plus en plus quand même, et notamment dans la région, de personnes qui ont conscience que c'est une base comme une fondation, en fait, qui est nécessaire de renforcer pour qu'ensuite, ils puissent construire dessus. Et donc, ils me contactent un peu en amont, un peu comme de la prévention, quoi, de se dire, on va s'outiller, on va se donner des repères communs pour pouvoir ensuite continuer ce qu'on a à faire avant justement que ce soit la crise, quoi.
Qu'est-ce qui va se produire prochainement pour vous, Clémence? Est-ce que vous allez proposer des ateliers de nouveau?
Oui, du coup, là, à la rentrée, j'ai proposé déjà quelques journées découvertes dans le Crétois et dans le Diwa. Et là, je propose un cycle de formation à 10. Donc, c'est les trois modules, on appelle ça les trois modules de base en CNV, c'est-à-dire que c'est 3 fois 2 jours. Dans ces 6 jours, du coup, je vais transmettre vraiment tous les fondamentaux de la CNV qui vont permettre d'approfondir, parce que c'est vraiment un... Pour moi, la CNV, ce n'est pas un outil de communication seulement, c'est vraiment, comme je le disais, une posture. Donc, c'est aussi une démarche un peu plus globale et ça demande de l'intégrer au fur et à mesure. C'est un peu comme quand on apprend le piano. Ce n'est pas en 2 jours de leçon de piano qu'on va arriver à jouer du piano, ça va demander de la pratique. Et donc, ces 6 jours, ils permettent justement d'intégrer au fur et à mesure tout ça. Donc, moi, je vais commencer avec un module 1 les 12 et 13 octobre. Là, à 10, ça sera dans la salle commune d'Habitaire. Et puis, il y aura le module 2 en novembre et le module 3 en décembre. Pour faire un peu le tour des bases. Et après ça, du coup, ça permet de pratiquer et de continuer à intégrer ça dans sa vie, que ce soit pro ou personnel.
À l'image de l'accorderie pour cet appel à partenariat, ça a été pour vous, l'accorderie, une demande commune de membres ou d'adhérents de cette association pour aussi avoir cette approche de la communication non violente? Est-ce que ça tendrait à se développer?
Alors, nous, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu déjà. On a un catalogue de formations qui est proposé. Et donc, du coup, il y a aussi des formateurs, autres que Clémence aujourd'hui, qui proposent, professionnellement parlant aussi, des modules. Donc, elle parle 1 et 2 et 3. Donc, moi, j'ai déjà eu le premier module. Et ensuite, on met en pratique, via un groupe qui s'est constitué à la suite de plusieurs formations qu'on a pu avoir les uns avec indépendamment des autres. Et donc, on s'entraîne. Et pour s'entraîner, du coup, après, on peut aussi proposer aux autres accordeurs, quand ils ont des conflits d'ordre privé, d'ordre professionnel ou entre eux, en fait. Et ça nous a paru comme une évidence de mettre en place ce partenariat avec Clémence Lataste pour continuer de diffuser justement cette mouvance... qui crée du lien et qui... Enfin voilà, c'est aujourd'hui, je crois que c'est vraiment la base qu'on peut trouver, qu'il faudrait trouver dans les foyers, dans les entreprises et toute autre structure, mais pour qu'on puisse faire tous ensemble et dans une meilleure communication plus douce, plus... plus prendre soin de soi, toujours. Ouais.
L'accorderie, c'est... un regroupement, je crois que c'est 2000 adhérents, hein, il me semble.
C'est ça, ouais.
De particuliers qui proposent leur temps sur une passion ou une compétence quelconque, oui. De bricolage, de dépannage.
Oui.
Est-ce qu'il y a des associations qui s'amènent aussi au sein de cette organisation de l'accorderie?
Alors oui, des fois, on a des associations qui viennent volontiers ou parce qu'on les a invitées. Par exemple, le mercredi, quand on fait des repas partagés, il y a des personnes de la trame qui peuvent venir partager ce temps avec nous. On a aussi déjà eu, je crois, c'est les petits frères
des pauvres,
voilà. On a une personne qui vient aussi régulièrement, tout ça. Donc voilà, on continue un peu à créer du lien... officiellement et puis officieusement sur des temps d'échange. Comme tout à l'heure, là, on a fait un petit repas partagé et on a reçu nos voisins québécois. Et donc, on avait une personne ou deux de l'association des chouettes, des popotes, enfin, voilà. Et donc, c'est assez... Et puis, des non-accordeurs aussi qui ont été invités. Et donc, je trouve ça vraiment très sympa, en fait, de créer ce lien et de...
Clémence, par rapport à, disons, la période économique plutôt difficile qui existe et qu'on va certainement encore subir, est-ce que justement cet aspect d'échanges violents s'amplifie parfois? Est-ce que ça, il y a une sorte de peur qui amène justement une réaction ou une sorte de mur
Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment le recul pour dire si c'est lié à ça, mais c'est sûr que quand on se retrouve dans des situations plus difficiles, et là, notamment par exemple économiquement, C'est sûr qu'il y a, plus de protections individuelles qui vont se mettre en place, qui vont faire qu'on va revenir dans des vieux réflexes, entre guillemets, de sécurité, en fait, de se mettre en sécurité individuelle et d'en oublier un peu la richesse que c'est d'être en collectif, en groupe, enfin, de un peu nos origines, quoi, d'être en tribu et dans notre éducation. J'ai envie de dire un peu capitaliste et individualiste, on va du coup revenir dans nos réflexes à se protéger, à d'abord prendre soin de ses propres besoins. Et peut-être que oui, ça peut, ce genre de contexte, il peut favoriser ce genre de réflexe. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi beaucoup de solidarité qui est là et qui est installée. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de l'histoire de chacun, en fait, aussi, et de comment on a traversé ces difficultés dans notre enfance, surtout, en fait, et quelles ont été nos blessures et ce qui nous a un peu construit, quoi. Et si on a plus grandi dans un environnement où, malgré les difficultés, il y avait toujours du soutien mutuel et de la solidarité, je pense que c'est des choses... Il y a cette confiance qui est installée, en fait, qu'on ne va pas se retrouver à la rue, quoi, on va dire. Et puis, si on a plutôt grandi dans une ambiance où... on n'a pas eu cette sécurité-là à la base et qu'on a dû se débrouiller un peu tout seul et d'être autonome rapidement, peut-être qu'il peut y avoir à des moments ce genre de choses qui reviennent. Et c'est totalement inconscient, je pense. Enfin, c'est vraiment plus des peurs qui font qu'on se braque, on se ferme. Mais voilà, j'ai aussi hyper... moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'ai quand même très confiance en l'être humain. Et donc, je pense qu'on peut retrouver... aussi rapidement ces compétences-là de confiance et de savoir qu'on va soutenir, en fait. Mais c'est sûr que notre époque, elle est pas vraiment... elle va pas forcément trop mettre en avant ces compétences-là. Donc moi, dans la CNV, je milite un peu pour retrouver ce savoir-faire-là qu'on a depuis l'enfance, quoi.
Clémence, vous opérez dans un milieu plutôt rural, hein, ici.
Ouais.
Mais est-ce que vous avez aussi... des prestations dans des cités urbaines ou des villes plutôt. Et est-ce qu'il y a des similarités de problématiques ou alors que ce soit urbain ou rural, il y a des disparités?
Moi, j'ai l'impression que... c'est vrai que j'interviens quand même beaucoup dans le milieu rural, mais j'ai l'impression que c'est un peu souvent les mêmes problématiques, en fait, qui se retrouvent, quoi. Parce que quand j'interviens pour des entreprises, c'est quand même un peu plus dans le milieu urbain. Mais c'est toujours un peu les mêmes réflexions et les difficultés de se comprendre, d'arriver à fonctionner malgré nos points de vue différents, de s'écouter vraiment. Tout ça, c'est toujours les mêmes questions, en fait, qui reviennent. Donc moi, je ne fais pas vraiment de différence de mon point de vue sur le milieu urbain ou rural. J'ai l'impression que... parce que là, en fait, on va surtout chercher des choses un peu plus profondes de l'être humain que des modes de vie ou des préférences ou une culture. En fait, là, c'est vraiment sur des réflexes qui sont un peu ancrés, j'ai envie de dire de plus loin qui viennent pas du milieu où on évolue, on habite, quoi, qui viennent plus de comme je disais, de notre enfance et de notre humanité commune. Donc, il y a quelque chose que je trouve assez similaire pour moi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Comment fonctionnent ces ateliers que vous proposez, Clémence, sur la communication non violente? Par exemple, le prochain module, combien de personnes peuvent s'y inscrire? Et est-ce que vous établissez une règle au départ qui est à suivre et qui permette... de diriger un peu ces modules?
Alors, comment ça se passe? En fait, en général, je dirais, il y a une douzaine, maximum quinzaine de personnes sur les deux jours. Et puis, moi, je pose tout de suite un cadre, on va dire, de confiance, de sécurité entre les personnes, parce que l'idée, c'est que vraiment, chacun se sente à l'aise de parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il est, de ce qui est important. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses dans ce qu'on va partager dans la CNV, quoi. C'est chacun va dire ce qu'il vit et c'est légitime, en fait, parce que c'est juste ce qu'il ressent. Donc c'est pour ça que je pose un cadre pour que les gens se déposent et sachent que dans cet espace, on est en sécurité, on va pas se juger les uns les autres, même si on se juge parce que c'est notre réflexe un peu d'éducation. Forcément, on a des jugements qui nous traversent, mais moi, justement, tout le travail va être sur comment on va prendre ces jugements, faire quelque chose d'enrichissant et qui parle en fait de ce qu'on ressent et de ce qui est important. Donc en fait, on en a des jugements, mais on va pas forcément les nommer. Ou moi, je vais en faire quelque chose de riche dans la formation, quoi. Je vais prendre ça comme support de travail. Donc voilà, souvent, ça permet aux personnes de se rencontrer. On va créer pas mal de temps de rencontres aussi au départ pour se connaître, faire connaissance, faire que voilà, on se sente détendu, parce qu'on va apprendre dans des conditions où on est détendu en général. Quand on est stressé, quand on a peur, on n'apprend pas bien. Donc moi, je mets tout ce contexte en place pour que les gens puissent se sentir à l'aise. Parce que je sais à quel point c'est un challenge aussi, où c'est difficile parfois d'oser s'ouvrir, d'oser parler de ce qu'on ressent si on n'a pas eu cette habitude-là. Donc ça demande aussi de se sentir vraiment en confiance. Voilà, donc ça c'est le cadre que je pose, et après on va aller sur pas mal d'exercices pratiques. Ça, c'est très pratique, il y a un peu de théorie, mais qui est vraiment basé sur l'expérientiel. Et voilà, donc il va y avoir pas mal de temps d'échange en binôme, en trinôme, en sous-groupe. Moi je propose d'aller sur différentes situations et je les invite à explorer ces situations avec la grille de lecture, on va dire, de la communication non violente.
Edwige, justement, par rapport à ce module 2 que vous avez suivi mardi, est-ce qu'il y a, par exemple, en vous, des remises en question ou des questions que vous vous posez, justement, sur des évidences qui vous apparaissent ?
Oui, déjà, il y a eu Clémence qui nous a proposé de faire un petit exercice, justement, de se remémorer un petit couac qui s'est passé entre personnes. Et donc, du coup, oui, ça m'a permis de... L'idée, c'était de nous inviter à voir la situation et puis de plus positivement, de voir un aboutissement en fait avec la personne. Bien sûr, en vue peut-être par la suite, vraiment dans le concret, dans la vie, je veux dire, d'aller rencontrer cette personne et d'aller lui parler pour continuer à tisser ce lien. Et oui, moi je sais que ça m'est utile, hein. Ça me fait prendre vraiment... un recul, comme si je pouvais je suis en fait l'observateur de moi-même. Et le fait d'être dans cette position-là, d'avoir appris à avoir cette position-là, en fait, m'aide des fois à pas rentrer dans le conflit tout de suite et de dire « Oula, attends là ». Et il y a aussi des choses que je peux me raconter, que je peux m'auto-juger, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que la CNV, dans la vie au quotidien, c'est un outil qui est extraordinaire, vraiment.
Clémence, votre activité sur la communication non violente est essentiellement sur la communication, tout simplement, mais est-ce qu'il y a parfois des choses plutôt matérielles aussi qui peuvent empiéter sur des relations ? Et est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que vous proposez ?
Eh ben oui, ça intègre complètement toutes ces questions-là, parce qu'en fait, quel que soit le sujet qui nous impacte ou qui nous touche, on va aller ensuite un peu plus en profondeur. En général, on prend des situations un peu comme des excuses en fait pour la pratique, et de se dire quelle que soit la chose qui m'a fait réagir, que ce soit d'ordre matérialiste ou pas, en fait c'est légitime parce que ça veut dire que c'est venu atteindre quelque chose qui est important pour moi. Et donc au lieu de se dire par exemple non mais c'est égoïste, en fait faut que je mette ça de côté, que j'oublie ce truc là, c'est de se dire mais en fait qu'est-ce qui fait que ça m'a impacté, pourquoi il y a quelque chose qui me convient pas dans cette situation, est-ce que c'est parce que moi là j'ai besoin de reconnaissance, je sais pas, ou j'ai besoin d'être de considération, par exemple si on m'a pas autorisé ou m'a pas donné une responsabilité ou un poste ou je sais pas quoi. En fait, certes, ça peut venir un peu d'ambition égocentrée, mais en fait, ça parle toujours d'un besoin fondamental à notre équilibre et qui, lui, est légitime. Alors, peut-être la manière dont on va tenter de le satisfaire par telle ou telle manigance ou stratégie, elle n'est pas forcément adaptée ou elle n'est pas forcément acceptable. Mais en fait, on va faire la différence entre cette stratégie-là et ce qu'on essaye vraiment de satisfaire, qui est un besoin, en fait, qui est quelque chose qui est fondamental, et ça, c'est légitime. Donc, quelle que soit, en fait, la situation, on va essayer d'aller la regarder avec cet œil bienveillant qui dit, il y a forcément quelque chose d'important derrière pour que cette personne, elle réagisse comme ça. et le fondateur de la communication non violente, qui était psychologue clinicien aux États-Unis, qui s'appelait Marshall Rosenberg, il disait en fait, la violence, donc que ce soit des jugements ou des comportements qui sont violents ou de la manipulation, tout ça, pour lui, en fait, à part tout ce qui était vraiment pathologie, très avancée, mais sinon des personnes dans la vie courante, en fait, la violence, c'est juste l'expression, il disait, tragique, de besoins insatisfaits, dans le sens où ça veut dire qu'on n'a pas appris à nommer et à exprimer nos besoins. Et donc, on le fait d'une manière un peu tragique, dans le sens où ça va être violent pour les autres, ça va avoir des conséquences dommageables pour les autres. Et en plus, ce qui est tragique, c'est qu'en général, quand on fait ça, on n'obtient pas la satisfaction de nos besoins. Et en fait, on obtient l'inverse du conflit. Et voilà. Et c'est tout ça qu'on va essayer d'analyser, de décortiquer, de comprendre et de ressentir surtout avec la CNV.
Ça, c'est un sujet qui intéresse surtout des responsables d'organisation, pour peut-être prévenir de futurs conflits ou d'éventuels conflits. Ça, c'est un peu l'aspect que Edwige, vous recherchiez aussi par rapport justement à ce mur de nom d'emblée, par exemple.
Oh ouais, j'ai pu aussi. Mais effectivement, parce que c'est vrai que quand on anime des fois, et puis des fois j'ai deux casquettes, j'anime et puis en même temps je représente le groupe de dit. Donc des fois, en tant qu'animatrice, j'apporte des idées en tant que représentante de groupe de dit, et c'est pas quelque chose qui est bien discerné en fait, et qu'on a pu déterminer avec Ophélie, qui est la salariée qui m'accompagne sur les temps de réunion. Et ouais, du coup, c'est c'est opportun, ouais,
Il y a aussi une manière d'éclairer les personnes qui suivent ces formations ou ces modules, mais il faut peut-être aussi le temps que ça se fasse. Ça dépend de chaque personne.
Oui, alors le temps, il est hyper important dans ce processus, on va dire, d'apprentissage. Parce que déjà, comme disait Edwige, moi j'invite beaucoup à ralentir, parce que tant qu'on ralentit pas, on se rend pas compte en fait de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, on prend pas le temps de revenir sur les choses, et puis on se rend pas compte de nos réflexes. Donc le temps, il va aider, le fait de ralentir, ça va aider déjà à prendre conscience de nos réflexes et pouvoir éventuellement les changer. Mais comment on va les changer? Ça va être en prenant le temps de pratiquer, de se donner le temps aussi de justement avoir cette bienveillance déjà envers soi-même, de se dire en fait j'ai été formatée comme ça, de toute mon éducation, toute notre culture, elle est formatée de cette manière qui est quand même assez violente verbalement, on va dire, ou dans les jugements, dans les reproches, dans les critiques qu'on se fait. Donc de se dire j'ai envie de me déformater, mais ça va prendre du temps parce que ça va me demander d'évoluer petit à petit, on peut pas changer d'un coup. Et puis aussi ça va me demander beaucoup de pratique. Moi je le répète beaucoup pour être hyper honnête dans ce que je transmets, c'est-à-dire que c'est pas une baguette magique, la CNV. Ça peut avoir l'air hyper simple comme ça, il y a des gens qui peuvent se dire j'ai lu un bouquin puis maintenant je vais faire de la CNV. Le problème, c'est que ça fait des gros ravages en général, parce que ça ils n'ont pas forcément intégré toute la posture qu'il y a derrière, et ils n'ont pas pris le temps forcément de pratiquer au fur et à mesure, et avec des personnes aussi qui sont consentantes à la pratique de la CNV, parce que ça va demander aussi de pratiquer, de s'entraîner, donc de faire forcément des erreurs normales, ce qui fait partie de l'apprentissage, mais de s'entraîner avec des personnes qui sont d'accord qu'on s'entraîne avec elles. Et moi, j'ai au début pu avoir ce retour de personnes, de proches par exemple, c'était assez léger, mais qui pouvaient me dire « Ah, mais en fait, là, t'es en train de faire de la CNV sur moi !» parce qu'ils avaient, je leur ai pas demandé leur avis, quoi. Donc, souvent, dans les formations, je dis aux personnes prenez le temps de pratiquer, mais prenez le temps de le faire avec des personnes qui sont d'accord, et pas tout de suite de vouloir plaquer ça sur vos proches, sur les gens autour, parce qu'en fait, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et surtout, ça transmet une image de la CNV qui est très déformée, en fait, par rapport à ce que c'est, parce que forcément, c'est des gens qui débutent, donc ils font forcément des erreurs, ce qui est logique. Et donc, moi, je dis, pour la préservation de vos liens, de vos relations, pratiquez avec des gens qui sont consentants, qui ont déjà fait des formations CNV. Et aussi pour la préservation de l'image de la CNV, par pitié, ne faites pas de la CNV avec des gens qui ne veulent pas ou qui n'ont pas les mêmes repères que vous, quoi. Et en fait, à force de pratiquer, on va faire de la CNV, entre guillemets, je dis faire, entre guillemets, parce que du coup, c'est plus faire, on va juste être un peu dans une posture différente. Et c'est ça, en fait, la CNV, c'est juste qu'on va intégrer une autre posture et qu'au final, on va plus vraiment se rendre compte qu'on fait de la CNV, parce qu'on va pas le faire intentionnellement, on va le faire parce qu'on a cette vision-là qui est intégrée.
Le temps, donc, pour vous, Edwige, aussi, à la corderie, c'est ce qui est nécessaire parfois pour mettre en place des initiatives?
Alors, si je comprends bien, c'est de prendre le temps, en fait, de réaliser, de ralentir, c'est ça? Ouais. Oui, ben déjà, je ralentis déjà chez moi avec mes enfants. Et je trouve que c'est bien parce que ça préserve vraiment une qualité d'amour. De prendre le temps aussi à la corderie de se poser et de proposer, d'écouter les uns les autres. Et puis aussi d'utiliser... cet atelier CNV, des fois, qui est mis en place aussi. Cet entraînement qu'on peut trouver. Du coup, oui, c'est vrai que, comme disait Clémence, là, on est avec des personnes qui sont consentantes et qui sont OK pour faire de la CNV. Bon, je ne sais pas si je réponds vraiment bien à ta question, mais voilà. En tout cas, ça nous permet d'avoir cet outil entre les mains et de le pratiquer, en tout cas, autant de fois qu'on peut y penser. Dans l'esprit de ralentir, ça fait vraiment du bien. Ouais.
Clémence, justement, cette notion d'urgence qui nous emporte tous, et ce qui est parfois source de conflits, parce que tout le monde n'a pas ce même timing, entre guillemets. Est-ce que pour vous, c'est aussi une introduction à vos réunions, à vos modules, pour peut-être aussi que replacer la personne dans un contexte où le temps est moins important et il faut peut-être plutôt la compréhension.
En tout cas, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Déjà, en fait, pourquoi je pratique la CNV, j'ai envie de dire très honnêtement, parce que moi, je suis quelqu'un de très stressé, en fait. Et donc, qui dit stressé, dit un rapport au temps un peu distorsionné, quoi. Enfin, avec toujours pas mal d'angoisse ou d'urgence. Et je vois que la CNV, elle m'aide vraiment à me rappeler, en fait, que si je reste dans ce rythme effréné, je vais rester dans ce fonctionnement, en fait, de stress. Et donc, je vais être exigeante aussi envers les autres. Je vais imposer ce rythme aux autres. Donc déjà, voilà, j'ai envie de dire que ça m'aide, moi, de manière très humble. Et puis moi, j'essaye vraiment de faire que ces formations, ça soit des temps de pause, en fait. Clairement, de se dire, dans notre quotidien, on ne se rend pas compte de l'importance de prendre ce temps, de parler, de se dire les choses. On se dit que c'est évident ou qu'on n'a pas besoin de perdre du temps à converser, à essayer de comprendre. Et qu'il y a des gens qui voient ça comme vraiment une perte de temps. En fait, le fait de parler de choses qui se sont passées, qui sont finies, par exemple, qui se disent « mais ça, c'est fini, on oublie, on passe à autre chose », des fois, oui, ça aide vachement d'avoir ce recul-là et de se dire « c'est pas si important, en fait, donc peut-être que je peux me dire que je passe à autre chose ». Et il y a des choses qui sont hyper importantes, c'est hyper important de revenir dessus parce que ça a un impact dans le présent, en fait. Donc oui, on va prendre le temps dans les formations de ralentir, de regarder un peu ce qui s'est passé, comment on l'a digéré ou pas, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui entrave, en fait, nos relations aujourd'hui dans le présent. Ce rapport autant, il est hyper important dans les formations. Et ralentir, ça permet aussi de ressentir, parce que si on est toujours dans le speed, on ressent que de la précipitation et justement un peu du stress ou de l'urgence, comme vous disiez. Et donc, le fait de ralentir, ça permet de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je ressens réellement? Et ça, c'est un apprentissage à refaire, parce que moi, je fais des formations pour adultes, en fait, majoritairement, enfin, en fait, que pour adultes. Et je vois que les adultes, en général, on a intégré un rapport au temps et un rapport aux émotions qui est un peu étrange. Donc, on est coupé de nos émotions et pour des très bonnes raisons en général, parce qu'on s'est protégé ou parce qu'on nous a dit que ça servait à rien ou parce qu'on nous a pas appris à en faire quelque chose. Et moi, j'invite dans ces formations à prendre le temps de ralentir pour sentir à quoi servent nos émotions, en fait, de voir que c'est des informations super importantes pour pouvoir se comprendre et donc comprendre notre fonctionnement et arriver à fonctionner clairement avec les autres et de manière fluide, quoi. Et aussi à comprendre les autres, parce que les émotions, c'est ce qui nous relie en tant qu'être vivant, quoi, être humain en tout cas. Et donc, le ralentissement, il aide à ça aussi, à sentir.
Edwige, donc pour la corderie et Clémence, pour la communication non violente, il y aura donc quelques propositions pour les quelques mois à venir.
Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à la suite. On vient juste de faire cet atelier, mais peut-être qu'il y aura d'autres idées à proposer. Après, Je sais qu'il y a en effet déjà ces groupes de personnes qui animent des groupes de pratique à la corderie autour de la CNV, dont moi je ne fais pas partie tout simplement parce que c'est mon travail et qu'en en fait à la corderie il y a un principe, hein, si j'ai bien compris, c'est qu'on va transmettre des compétences qui ne sont pas notre travail pour que ce ne soit pas monnayable ou qu'en tout cas ça sorte de ce fonctionnement-là. Donc moi je ne participe pas à ces ateliers-là, mais il y a des personnes qui le font et puis je serais très heureuse de revenir faire des propositions, accompagner soit la corderie, soit d'autres groupes, partenaires, enfin voilà, pour les soutenir peut-être plus spécifiquement aussi dans leurs problématiques, parce que là dans l'atelier qu'on a fait c'était plus collectif, on n'a pas forcément décortiqué des situations individuelles liées à une association en particulier, mais voilà, après moi je peux très bien venir soutenir les associations sur d'autres temps, et là avec la corderie on n'a pas encore réfléchi, mais on verra ce qui se présente au fil de l'année.
En tout cas tu peux toujours utiliser nos locaux, oui, voilà, les loue, c'est ça. On les met à disposition, donc oui, y a cette, on peut imaginer ça. Et puis oui, aussi pour revenir à ce qu'elle disait, c'est vrai qu'elle n'agit pas en tant qu'intervenante parce qu'il faudrait la rémunérer, et que pour l'instant nous en fait c'est une bénévole aussi qui fait des modules et donc du coup qui met ça à disposition. Mais effectivement, si après il y a des accordeurs qui trouvent que en fait nous, notre atelier qu'on propose, ou entre guillemets le service qu'on propose n'est pas suffisant, effectivement, cette personne peut toujours aller voir Clémence pour une médiation ou une autre, bien évidemment. Et on pourrait imaginer aussi comme je disais tout à l'heure, on a un réseau qui nous permet d'avoir des formateurs professionnels qui viennent sur le territoire former des groupes d'accordeurs. Eh bien, elle pourrait très bien en faire partie. Et donc là, il y aurait une rémunération, en fait, aussi.
Clémence et Edwige, on peut trouver une vitrine internet pour vous concernant?
Oui, alors, je dis-moi. Alors, pour ma part, je suis présente sur LinkedIn. Et puis, il y a aussi le site national qui s'appelle CNV Formation au pluriel, .fr, il me semble.
Où vous êtes référencée.
Où je suis référencée et où toutes les formations nationales sont référencées. Et c'est important pour moi d'en parler un peu plus, si je peux, parce qu'en fait, c'est un site qui référence vraiment les formateurs qui ont été formés d'une manière continue et pas juste qui ont fait quelques heures de formation et puis qui transmettent quelque chose. Comme je disais, c'est vraiment une posture qui demande beaucoup de temps. Moi, ça fait 10 ans, enfin plus de 10 ans que je me forme. Et du coup, j'ai été, on va dire, certifiée. Ça s'appelle notre formation certifiée il y a 2 ans. Bientôt 3. Mais voilà, donc ça demande vraiment du temps. Et sur ce site, c'est vraiment les formateurs qui ont fait toute cette formation qui est longue, sur le long terme. Et donc, je recommande d'aller sur ce site principalement parce que, voilà, il y a ce gage de qualité, en fait, pour ce qui va être transmis après et aussi de cohérence entre la posture du formateur et de la formatrice et ce que la personne transmet.
Vige, pareil, vous avez un site pour la corderie, évidemment.
Oui, on peut. On tape la corderie du Diwa, en fait, et on tombe sur le déroulé avec une brève dedans. Où on explique, en fait, un petit peu tout ce qu'on va faire dans le mois, en atelier, en apéro, avec les nouveaux, les anciens, les repas partagés, enfin voilà, tout ça. Donc, oui. Et après, bon, il y a une adresse mail, et je crois que c'est accorderie@.
Clémence et Edwige, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de ces ateliers de communication non violente au sein et en partenariat avec la corderie.
Merci à vous, merci pour les questions.
Ouais, merci Yves, et Air du Bois aussi fait partie de nos partenaires. Donc. Voilà,
bonne soirée.
Avec plaisir, bonne soirée.
Bonne soirée.